Deutsche Welle Forum des cultures.
De mon père enfant, je n'ai pas de photo. Il faudrait la construire.
La voix d'Éric Sarner, accompagnée à la contrebasse par Ricardo Delfra. C'était à la librairie française de Berlin, Zadig. L'auteur y a récemment présenté son dernier recueil en date, Cœur chronique, pour lequel il a reçu le prix Max Jacob 2014. Éric Sarner est l'invité de ce Forum des cultures. Bonjour et bienvenue.
Lui, assis sur un parapet, le genou terreux, la tête inclinée, jouant avec ces petites bêtes qui, soudain, peut-être dans le danger, se roulent en boule argentée et dont il n'a jamais connu le nom. Mais ce n'est pas mon père sur cette image, c'est moi.
En plus d'être poète et écrivain, Éric Sarner est journaliste, réalisateur de documentaires et même acteur à ses heures. Né en Algérie, cet amateur de jazz vit depuis quelques années à Berlin, qu'il quitte pour des escapades à Paris ou encore à Montevideo en Uruguay. L'écriture, il est tombé dedans à l'adolescence.
J'ai commencé par écrire des poèmes comme tout le monde, ou presque. Et puis après, j'ai mis les choses un peu plus en forme. J'ai commencé par écrire sur moi, sur mes émotions. Et puis après, j'ai découvert le monde et j'avais envie de découvrir le monde. C'est pour ça que je suis devenu journaliste après. Et donc ça modifie l'écriture, parce qu'on écrit sur le monde au travers de ce qu'on est, de ce qu'on a identifié en soi. Mais en tout cas, on écrit sur le monde, sur les choses de la vie, comme on dit.
Et justement, vous avez écrit notamment un livre sur l'Algérie qui s'appelle « Voyage en Algérie » avec un S, Algérie au pluriel. Et précisément, on retrouve là-dedans tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la fois ce regard donc, sur vous-même, vos émotions, vos sensations, mais aussi de découverte et de rapport au monde, à l'autre et aux différentes Algéries.
C'est absolument ça. Alors le contexte, c'est tout simplement que je suis né en Algérie à l'époque coloniale. Et puis que j'en suis parti très tôt, à l'âge de 10 ans, en ayant connu de l'Algérie que la ville d'Alger. Et puis, il s'est passé des dizaines d'années avant que la vie m'amène à y retourner. En l'occurrence, c'était un projet de film. Et puis après, c'est devenu un livre, l'occasion de la préparation d'un livre. Pour cette préparation, je me suis dit, allons-y, essayons de découvrir ce que c'est que ce pays et pas seulement cette ville que je connaissais, que j'ai retrouvée, évidemment changée, surpeuplée, mais aller voir des lieux que je ne connaissais pas. Donc, en voyageant en Algérie pendant plus d'un mois, avec ce qu'on appelle là-bas un taxieur, en gros un chômeur qui a une voiture, j'ai voyagé en Algérie et j'ai découvert donc ce pays absolument magnifique, très divers, très riche dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs Algéries. C'est-à-dire que dans ce pays, on parle énormément de langues différentes. On est très différent d'une région à l'autre. Il y a des côtes et donc la mer et puis des endroits retirés très à l'intérieur. Il y a le désert, bref. Politiquement aussi, socialement, culturellement, je me suis aperçu qu'il y en avait plusieurs des Algéries. Et c'est pourquoi j'ai ajouté ce S au titre.
Il y a énormément de références dans votre livre, des références historiques, culturelles, littéraires, des rencontres, des vraies rencontres, avec des vraies personnes, mais aussi des rencontres imaginaires. Mais c'est aussi l'occasion de souvenirs.
Lorsque je me balade dans Alger en 2011, à l'époque où commençait le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, en Tunisie d'abord, et puis en Égypte après, j'étais en Algérie, et je me baladais dans les rues, notamment de cette ville Alger que je connaissais bien, où j'ai retrouvé tous mes repères. Eh bien, une scène comme, par exemple, être identifié au moment où je suis dans une rue où habitaient mon oncle et ma tante au premier étage et que je regarde ce balcon sur lequel je jouais à la petite voiture et qu'un passant, ou plutôt un barbier du coin vient et me dit « Oh, vous, j'ai compris, vous étiez là ». Et je dis « Oui, bien sûr ». Ça donne l'occasion aussitôt d'une communication qui est très forte parce que il m'accueille, il me salue, il partage avec moi des souvenirs. Il me dit « Mais pourquoi vous ne montez pas au premier étage aller frapper là-haut ?» Je dis « Oh non, je ne vais quand même pas déranger. » « Mais si, allez-y. » Et là-haut, je suis accueilli à bras ouverts. Et la première chose que je vois, ce sont les carrelages par terre, c'est-à-dire la vue d'un petit garçon, et que je reconnais immédiatement. Et puis on me propose de faire le tour de l'appartement, qui évidemment était beaucoup plus petit que ce dont je me souvenais.
Et il y a aussi énormément de références aux langues. Vous avez dit qu'il y a plusieurs langues, effectivement. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans Cœur Chronique. Et notamment, vous parlez d'une langue, le judéo-espagnol. Alors là, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un linguiste, mais je sais qu'il y a eu dans le passé, notamment dans les communautés juives d'Espagne, une langue qui s'est inventée comme ça, qui était un mélange d'espagnol et sans doute d'hébreu, qui a persisté pendant longtemps, que j'ai retrouvé curieusement également en Turquie, où il existe même un journal qui est publié en judéo-espagnol en Turquie. Et donc, je me suis amusé parce que cette langue, je l'avais vaguement entendu mélanger aussi à l'arabe, parce que j'ai grandi à une époque où l'Algérie était vraiment très mixte, ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui, où on entendait des tas de langues, de l'italien, du maltais, évidemment de l'espagnol, de l'arabe évidemment, et ce judéo-espagnol. Et ce mélange des langues, eh bien, c'est revenu bien plus tard, donc, au moment où j'écrivais Cœur Chronique, et je me suis dit, et si je faisais un petit dictionnaire personnel, dictionnaire intime, comme ça, de mots qui existent en judéo-espagnol et qui me disent quelque chose. Et quoi ? Et c'est ça que j'ai écrit.
Alors on va passer de l'Algérie à Berlin, où vous vivez en partie actuellement. Vous avez notamment publié dans un recueil qui s'appelle Rue des Lignes, donc pour la librairie française de Berlin, un texte sur les glaneurs de bouteilles ou de consignes. Voilà, je voudrais savoir pourquoi est-ce que particulièrement pour ce recueil, c'est cet aspect-là de la ville qui vous a intéressé.
C'est sans doute une des premières choses qui m'est frappée à Berlin. Je me demandais qui étaient ces gens, tellement différents d'ailleurs, parce qu'il y a tous les âges, et puis on trouve des messieurs, des dames, des couples, des enfants qui ramassent des bouteilles. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait une consigne quand je me suis installé ici, qu'on pouvait récupérer la consigne des bouteilles. Et puis, c'était un signe, comment dire, social en même temps. C'était une façon d'entrer dans la réalité économique de la ville, qui, comme chacun sait, est une ville pauvre. Ces bouteilles vides, qui représentent quelques centimes d'euros, ça permet à quelques-uns, à beaucoup finalement, dans la ville, et en Allemagne sans doute, de subsister, de survivre, ou d'arrondir une petite retraite. Donc ça m'avait beaucoup frappé, ça, cette histoire de Pfandsammler. Ça a été un des premiers textes que j'ai écrit sur Berlin. L'idée étant de faire sur Berlin une suite de chroniques qui mélangent le passé et le présent. Je crois que Berlin est une des seules villes, et pourtant j'en ai connu des villes, où la charge historique est la plus forte en même temps que l'air est le plus léger. On se promène dans Berlin avec un sentiment de liberté. D'abord, on est sur des marécages. Berlin, c'est sur des marécages, c'est-à-dire qu'on est en équilibre-déséquilibre tout le temps. Hein. En même temps, on est dans une épaisseur historique qui n'est pas nécessaire de détailler. Et donc, la force vient de là. Et donc, ce que j'aimerais raconter, c'est un petit peu du Berlin d'hier et un petit peu du Berlin d'aujourd'hui, en passant justement, par exemple, des Pfandsammler ou de la très jolie histoire de la chanson Lili Marlène, composée par un petit soldat allemand de 14-18 qui était basé Chaussée-Strasse, c'est-à-dire vraiment tout près de chez moi ici, et qui avait deux amours, Lili et Marlène, et qui a écrit une chanson qui restait, quoi, qui reste. Et ce sont à chaque fois des histoires de vie, des histoires de créativité qui montrent bien que Berlin n'arrête jamais. Je voulais appeler mon livre « Berlin ne finit jamais ». C'était le titre originel du livre de Hemingway, que Hemingway voulait ou a dédié à Paris. Paris est une fête. Il voulait appeler ça « Paris ne finit jamais ». Et je crois que « Berlin ne finit jamais », c'est encore plus vrai.
À suivre donc le prochain livre d'Eric Sarner sur Berlin, qui aura sans doute des accords de jazz. On se quitte avec l'un de ses compositeurs préférés, John Coltrane. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Eric Sarner d'en avoir été l'invité. C'était Audrey Parmentier au micro. Vous pouvez retrouver ce forum des cultures sur notre site www.de/français. Bonne suite de programme sur nos ondes.